le ghetto par le ghetto, donc les blacks avec les blacks, les beurs avec
on
les beurs.
Je voudrais avoir des droits.
On peut pas être dans la misère et demander d'être citoyen.
La société n'appartient à personne, elle nous appartient.
Bonjour, Alternative FM vous propose Liberté, Égalité, Fraternité, le magazine d'information sociale, culturelle, économique et politique de la rédaction.
Nous sommes le jeudi 24 novembre et la quinzaine citoyenne à Persan se poursuit par une projection au cinéma Le Palace de Beaumont-sur-Oise avec le film Le ciel attendra de Marie Castille, mention char. Ce film raconte la radicalisation de deux jeunes filles, leur plongée dans l'idéologie mortifère des islamistes et leur départ en Syrie pour rejoindre Daesh. On suit leur dérive, l'impuissance des parents, le fanatisme montant et la douleur infinie des proches.
Est parti sur ces sites. Il ne s'est pas rendu compte qu'il allait discuter avec des rabatteurs. Jamais on leur dit « je vais t'embrigader ». Au contraire, il lui parle d'être utile, enfin, de faire quelque chose qui correspond à sa révolte. On leur dit « toi, tu as du discernement, les autres sont des gens endormis ».
Tu sais, j'ai envie de t'embrasser, mais je ne sais pas si je peux te le dire.
Tu ne peux pas m'embrasser. Je ne suis pas ton mari. Je te respecte. Tu es pur. Ton cœur est pur. Je n'ai pas comme tous ceux qui t'entourent. Tu es spécial. Tu l'as tout de suite compris. T'aimes plus l'islam.
Pour commencer, on se retrouve facilité et encouragé vers la course à la perversion, vers la débauche, vers la perte des valeurs et de la foi. Tout cela au nom du divertissement et de la liberté, dans un pays où règne la loi des hommes. Une loi imparfaite, soumise aux humeurs, à l'art bestial, aux erreurs et aux passions des êtres humains, qui au fil des temps deviennent de plus en plus pervers, de plus en plus impudiques, de plus en plus égarés, de plus en plus passionnés. Le parcours de réussite est simple dans ce système. Il s'agira de valider le cursus scolaire obligatoire, imposé par l'éducation nationale pour vous conditionner à intégrer cette société et s'y conformer bien gentiment. Travailler, employer sa santé pour nourrir l'économie du pays, posséder quelques biens, quelques rêves, puis vivre à jamais dans l'espoir et l'illusion d'en posséder toujours plus. Attendre toute une année pour les plaisirs éphémères des vacances d'été. Et finalement, attendre toute une vie jusqu'à la retraite pour les plaisirs manqués, pour profiter soi-disant du peu de vie qu'il reste. Mais en fait, mourir d'une vie inutile, futile, pitoyable et insensée.
Nous poursuivons maintenant avec un débat, avec un nombre de participants importants ayant des prises de position différentes. Discussion animée par Sefiraïdja, en fin d'études de droit, intervenant en milieu carcéral dans le domaine de la prévention et lutte contre la radicalisation.
Alors ce que je vous invite, c'est peut-être à... C'est des réactions, des premières réactions au film, des... On va se donner un petit cadre, disons que des questions, des réactions au film, on essaie qu'elles soient assez courtes, de manière à ce qu'on puisse se distribuer la parole, et puis de manière à ne pas vous libérer trop tard, parce que je vois Rachel, elle est déjà presque dans son lit.
Je vais vous présenter, histoire d'asseoir un peu plus ma légitimité à cette question de la radicalisation. Moi, je suis Sefer Ajdia, j'ai fini mes études de droit, je passe le concours d'avocat à la fin de l'année. Ma thèse, parce que je suis aussi en thèse, se pose la question de savoir quel corpus juridique, sur quel corpus juridique se basent les questions d'endoctrinement. Et donc, j'interviens aussi en détention, en prévention et lutte contre la radicalisation, toutes les prisons de France, pas forcément dans celles dans lesquelles il y avait les unités dédiées. Donc voilà, et je chionne un peu la France, je fais un peu le même métier que Dounia Bouzard. Vous avez vu Dounia Bouzard qui joue son propre rôle dans le film, qui va voir les familles, qui explique l'univers de sens qu'il y a autour de la radicalisation, à des familles qui souvent, qui quand bien même sont de cette religion, de la religion musulmane, ne comprennent pas pourquoi ces jeunes s'embrigadent dans ce qu'ils peuvent comprendre de la version de la religion qu'on leur propose. Ce film nous offre, comme je disais cet après-midi, une bobine de lecture, mais qui n'est pas complète du phénomène de la radicalisation, parce que ça concerne seulement les convertis dans ce film-là. Et il ne représente que 14% du panel des personnes qui vont se radicaliser. Donc du coup, ça correspond qu'à une seule partie. Ça ne nous permet pas d'entrer dans le phénomène pour comprendre ni d'en sortir. Donc nous, on a imaginé une chaîne de production de la radicalité. Et donc, avant d'arriver aux questions, je vais vous l'expliquer pour que vous puissiez rebondir, parce qu'on retrouve certains de ces critères dans le film. Donc il y a une ligne, une première ligne qui est commune à tout le monde, dans laquelle on retrouve la théorie du complot. Vous l'avez vu, hein, vous avez vu les Illuminati et tout ça. La géopolitique, la façon de penser ce qui se passe notamment au Moyen-Orient, en Syrie, en Palestine, et l'idéologie, c'est-à-dire une version dévoyée certes, mais une version de l'islam. Parce que vous savez qu'il y a une grande interprétation herméneutique à toutes les religions dans tous les cas, et donc c'est une version, qu'elle soit dévoyée ou pas, on part de cette base-là. Après, il y a une ligne qui est individuelle, qu'on ne retrouve pas chez tout le monde, mais et qui est différente chez tout le monde, les traumatismes. On le retrouve dans le film avec la mort de la grand-mère. C'est un traumatisme pour cette personne-là. En gros, ça mène à ce que ce soit une brebis égarée, que le loup va croquer plus facilement. Et là, c'est pour ça que c'est compliqué d'aborder la question que par le film. En général, le champ, c'est un milieu social assez précaire, dans lequel les jeunes vont pas pouvoir se projeter dans l'avenir au-delà de 2 ans. Donc du coup, ils trouvent pas un sens à leur vie, et comme Rachid Benzine, un grand islamologue, le dit, ils donnent, à défaut de donner un sens à leur vie, ils donnent un sens à leur mort. On retrouve tous ces schémas-là, tous ces critères-là, dans la chaîne de production de la radicalité, et on en retrouve quelques-uns dans le film. Donc maintenant que je vous ai un peu exposé tout ce qu'on pouvait y trouver, et selon les personnes, ben, il va y avoir des fois plus de traumatismes, et là c'est ce qu'on voit, il y a beaucoup plus de psychologique que d'idéologie, mais des fois il y a des personnes où l'idéologie va beaucoup plus travailler qu'autre chose, où des fois la théorie du complot ou la géopolitique va beaucoup plus les toucher que d'autres personnes. Donc voilà, maintenant si vous avez des questions sur le phénomène en lui-même, que ce soit en rapport avec le film ou pas.
Comment on distingue le phénomène sectaire dans Brigade Monde, qui est bien décrit dans le film, de celui de type Brigade Internationale dans les années 30? C'est toujours embarrassant de comparer Daesh et la République espagnole, mais n'empêche qu'il y a de toute l'Europe des gens, souvent jeunes, qui sont allés s'engager contre le fascisme, qui était bien réel, qui était une menace et qui a d'ailleurs pris le pouvoir en Espagne. Aujourd'hui, en Irak, les sunnites, à la victoire des Américains, ont été largement chassés du pouvoir, discriminés, ont perdu beaucoup, avec des pogroms, etc. Il y a de fait des violations majeures de droits de l'homme, et on peut imaginer que des gens se sentent solidaires, comme se construire une solidarité avec la Palestine tout en vivant au cœur de Paris, etc. On peut à un moment être touché par une situation. Donc comment on traite cette différence-là?
Bah, ça arrive. On en connaît beaucoup qui vont combattre ni du côté de Daesh, ni du côté d'Al-Nusra, qui sont les deux versions terroristes sur place, et qui vont combattre par exemple pour l'ASL, l'armée syrienne libre. Eux ne sont pas incriminables, mais sur place, pour y avoir été plusieurs fois, ma mère est syrienne de Alep, pour y avoir été pendant la guerre. Sur place, il n'y a pas de réelle différence entre les modérés ou pas. Sur place, c'est le terrain qui prend le pas sur l'idéologie. C'est le politique qui prend le pas sur l'idéologie. Donc, et c'est vrai que c'est compliqué, mais en France, on ne fait pas la différence. Hein. Dès que on est dans une logique sécuritaire, et dès qu'une personne revient de zone de guerre, voilà, on passe par une instruction et on essaie un maximum de l'envoyer derrière les barreaux ou d'avoir des mesures contraignantes pour pouvoir au moins la contrôler. Et c'est compréhensible. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est compliqué parce qu'il se passe... dans un même endroit, il va y avoir Daesh, il va y avoir Al-Nusra, qui vont avoir des idéologies vraiment basées sur le wahhabisme, hein, qui est tuer l'autre. Hein. Et ceux qui ne nous ressemblent pas, ceux qui n'ont pas notre religion, même plus ceux qui n'ont pas notre idéologie, notre façon de penser politique. Et donc, c'est compliqué de faire la différence. Mais 99,9% des personnes qui vont sur place sont touchées par l'idéologie. Et on ne va pas sur place comme ça. Il faut un réseau, il faut des réseaux sur place. Et ici, Et donc, ça existe. Et les canaux, les sillons vont vers Al-Nusra et Daesh. Hein, pratiquement jamais avec la SL, ne serait-ce que parce que le gouvernement provisoire hors Bachar el-Assad en Syrie a des accords avec la France. Et donc, ça les décrédibiliserait eux-mêmes, c'est de la géopolitique. À la chambre 16E du tribunal de grande instance de Paris, vous avez les dossiers correctionnels d'antiterro. Et donc, là, on voit beaucoup de personnes qui reviennent de Syrie, et souvent, ils disent on allait faire l'humanitaire. Mais on sent qu'ils sont partis pour ça, mais que sur place, c'est le terrain qui a pris le dessus. Et finalement, au lieu de se faire couper la tête, ils ont préféré couper des têtes. Ou forcément, ils n'avaient pas le choix. Ou certains ont essayé de s'échapper, ils sont fait torturer, et à terme, ils sont échappés. Il y en a. Et il y en a plein qui disent qu'ils sont allés faire de l'humanitaire ou ils ne sont pas allés avec les présumés terroristes comme Al-Nusra, les groupes Al-Nusra ou Daesh, mais qu'ils sont allés avec la SL ou des groupes modérés. Et donc, ça fait partie d'une défense parce qu'ils ne sont pas incriminables. L'outil juridique sur lequel ils reposent, les magistrats du siège, c'est l'incrimination terroriste, elle est dans le droit commun. C'est un certain nombre d'incriminations qui existent déjà, qui sont mises dans le package de dits terroristes. Mais c'est une incrimination simple, comme l'association de malfaiteurs, on peut la coller au terrorisme, mais elle est restée dans le droit commun. Le fait, par exemple, de prendre les armes, ça peut être défini comme du terrorisme, à partir du moment où on le fait dans le cadre d'une association de malfaiteurs qui prépare un acte de terrorisme ou dans le cadre d'une association reconnue comme le terrorisme.
On entend souvent le mot djihad revenir. Donc voilà, toutes ces personnes-là, donc ces personnes embrigadées, elles partent pour le djihad. Mais on entend tellement le mot djihad, que ce soit à la télé, que ce soit dans les conférences, les conférenciers qui le disent, et je sais que derrière, il y a plusieurs connotations. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différentes connotations et comment est-ce qu'elles sont prises par certaines personnes et par d'autres?
Eh bien, là, on rentre dans le jeu typique de la production du discours de Daesh, d'Al-Qaïda, de ces personnes-là qui veulent embrigader. Ils puisent dans le corpus juridique et idéologique qu'on va retrouver dans l'islam, le Coran, le Hadith, où il y a 5 sources en tout, mais les plus importants, le Coran et le Hadith, et ils puisent là-dedans pour orienter dans leur sens l'outil. Et comme le djihad. En France, si vous demandez à 99,9% des musulmans, ils vont vous dire que c'est l'effort intérieur qui va vous ramener à un but. Vous allez demander aux producteurs de discours de Daesh, ils vont vous dire c'est prendre les armes, tuer des apostats, des personnes qui vont pas aller dans le sens de la religion. La religion, elle est beaucoup fantasmée, cette religion-là, et du coup, ça permet beaucoup de choses. Il faut débroussailler. Et donc, du coup, dans la production du discours, on sait qu'on n'a pas affaire à des rigolos. Al-Azhar, la plus grande école du sunnisme dans le monde, au Caire, arrive à se faire contrer point par point par les producteurs de discours de Daesh. Et on suspecte que ces producteurs de discours ont été formés à un autre endroit fort de l'islam, soit à la Mecque, soit à Médine. Cette information nous dit que ces personnes-là savent manier l'outil juridique de l'islam. Ils savent l'orienter.
Oui, en fait, moi j'ai une question par rapport aux personnes incarcérées. Donc, qui sont revenus de Syrie et qui ont été incarcérés pour terrorisme. J'aimerais savoir le travail réalisé en détention pour tenter justement de déradicaliser. En fait, qui intervient et qu'est-ce qui se met en place justement pour les aider à retrouver un peu la zone.
On était pendant 2 ans dans une phase expérimentale. Juste vous expliquer pourquoi. C'est qu'on ne savait pas vraiment ce qu'il en était. On ne savait pas. J'ai rien contre la laïcité. Bien au contraire, je sais que c'est. Une des seules choses qui nous permet de vivre ensemble dans notre espace public. Mais le problème, c'est qu'il y a une certaine perversité, c'est qu'on est devenu analphabète de la religion. Et que quand on a un problème comme celui-ci qui regarde une certaine idéologie qui se base sur un corpus souvent idéologie juridique de l'islam, on met met du temps avant que la machine elle se mette en place, avant qu'on réfléchisse religieux. La laïcité en France, quelque chose de bien encore une fois, on va remettre en question ça, mais elle a été poussée jusqu'à la sécularisation de la société. La sécularisation de la société, c'est pousser la laïcité même dans le privé. Et ces jeunes, on a créé envers eux, c'est assez psychologique, mais une dette de sens. Vous savez que le religieux, la religion, ça structure, ça donne des réponses à des questionnements, ça donne un certain nombre de stabilité à un moment donné, surtout à un moment donné où les jeunes ont besoin de réponses, de certitudes. Un jeune, en général, c'est quelqu'un qui veut savoir comment la voiture fonctionne, comment le ciel est bleu, pour comment ça se dit que le ciel est bleu, voilà. Donc, à un moment donné, le jeune s'est tourné vers le religieux, mais dans une société où on a refoulé, on a repoussé un peu le domaine du religieux.
La laïcité, telle qu'on se trouve actuellement, on n'a pas écarté la religion. Justement, la laïcité, c'est de voir que chacun puisse la pratiquer la sienne, indépendamment. C'est pas du tout éloigner les gens des choses de leur vie propre, de leur vie privée, etc. Mais on ne peut pas dire que la laïcité est écarter les notions de compréhension d'une manière générale.
J'ai jamais dit ça. J'ai pas dit que ça écarte des notions de compréhension, c'est juste que ça va être parfois des barrières à ce questionnement-là, à cette recherche-là. On va être dans une société où on a voulu que le religieux ne soit pas dans le milieu public, bien sûr. Mais c'est pervers, c'est qu'on se pose des questions, même quand on n'est pas, ces questions-là, même quand on n'est pas dans le milieu public, en réflexe. Et donc du coup, moi, c'était juste pour expliquer, je ne disais pas que c'était bon ou pas bon, c'est juste pour expliquer qu'on a créé une dette de sens vers ces enfants-là. Et donc après, ce qui est pervers, c'est que quand ils ont une offre qui vient d'ailleurs, ça fait une dette de sens. On offre et il y a obéissance. C'est aussi simple que ça. C'est que peut-être que ces personnes-là qui se sont converties ou qui sont parties dans une version un peu plus dure de cette religion et qui à la fin sont parties faire le djihad, peut-être qu'ils n'avaient pas assez de réponses. On ne leur a pas donné de possibilité de penser la religion. Et aujourd'hui, tout le monde est prêt à dire qu'on est dans une société séculaire. C'est une réalité. Vous lisez n'importe quel livre. En ce moment, le mot en vogue à Paris, c'est sécularité. Et j'expliquais pas, je disais pas c'est à cause de ça ou c'est à cause de ci. J'explique juste que y a un appel d'air. Des portes qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent.
On va prendre encore une ou deux interventions avant de clore cette soirée.
Donc moi, en fait, je voulais savoir une chose. Vous êtes en contact direct avec les personnes qui partent vers le djihad, c'est ça?
Ou qui sont revenus ou qui sont sur place.
Voilà, ok. Et en fait, moi, je voulais savoir, concernant les jeunes en particulier, du coup, ces jeunes-là ont été endoctrinés. Et est-ce que quand ils reviennent, vous avez le ressenti qu'ils peuvent se déradicaliser? Est-ce que vous y croyez réellement? Parce qu'ils peuvent toujours avoir ça dans leur tête. Et comme ils sont jeunes, peut-être que ça peut ressurgir plus tard.
Déjà, quand ils reviennent, faut savoir qu'ils sont déjà en résilience. Parce que déjà, ils reviennent, tout simplement. Et qu'ils se sont rendus compte que sur place, il y avait quelque chose qui n'était pas trop ça. Il y a eu une réalité du terrain. Mais le problème, c'est que cette résilience, il faut la motiver. Il faut donner un certain nombre de clés de lecture. Nous, ce qu'on fait en détention, on ne leur donne pas une version. Ça ne sert à rien. C'est comme la théorie du complot. Plus on va la combattre, plus on va l'alimenter. Ce qu'il faut faire, c'est donner un certain nombre de doutes à cette certitude. Eux, ils étaient dans une certitude. Oui, c'est comme ça qu'ils vont voir le monde, parce qu'on nous ment et parce que la géopolitique, c'est comme ça. Il faut donner, notamment au point de vue idéologique, par exemple, sur la lecture du Coran. Et donc, nous, on ne donne pas une version de lecture, on donne juste certaines clés de lecture, comme ça. Et ça met des doutes là où il y a des certitudes et ça permet à des personnes de se démobiliser.
Est-ce que vous ne pensez pas que ce problème-là, il est devenu limite ingérable? Parce que les gens, ils s'influencent avec les réseaux sociaux, de simples discussions où personne ne peut se radicaliser tellement rapidement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est devenu un problème ingérable, limite
Ouais, dans sa proportion, ouais. Le fait que ça peut toucher tout le monde, il faut faire de la prévention. C'est rien que ça aujourd'hui, c'est de la prévention, des outils de lecture. Et ce film, c'est de la prévention. Ce film, c'est de la prévention, ça donne des clés de lecture. Parce que, bah, vous avez vu, ses parents croient qu'à un moment donné, que c'est une crise d'ado, alors que ça n'en est pas. Donc, il faut faire un maximum de prévention, et les préventions sur ce qu'on sait du phénomène. La théorie du complot, la géopolitique, l'idéologie, les aspects traumatiques. C'est vrai que ouais, c'est un phénomène qui devient ingérable, parce que quand bien même Daesh ou Al-Nusra va perdre d'influence au Moyen-Orient, et ben ici, à la prison de Fleury-Mérogis, il y a plus de femmes qui se radicalisent. Donc oui, il faut mettre les moyens, c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que ça prend beaucoup d'argent à l'État en ce moment que de gérer le dossier.
Les jeunes qui cherchaient à radicaliser les gens, les jeunes qui font tout ça dans le film par exemple, bah, je pense qu'ils connaissent un peu l'islam, ils savent que ce qu'ils disent que c'est aux jeunes filles pour les radicaliser, ils savent très bien que c'est pas forcément vrai, que c'est pas vrai du tout même. Mais en fait, juste je voulais savoir c'est quoi leur but en fait.
C'est simple, hein. pour y avoir été, pour avoir rencontré un certain nombre de djihadistes sur place, là ils veulent embrigader et ramener des femmes sur place. Pourquoi? Il faut les tenir, les combattants, sur place. Il faut les tenir, il n'y a pas de femmes sur la ligne de front. Donc du coup, ces femmes-là, elles croient tomber amoureuses d'un gars, et elles le disent, d'une abouza. Sauf qu'elles arrivent sur place, elles sont dans des maisons pour femmes, où on les maltraite, c'est incroyable. Et après, elles doivent se marier, quand elles ont de la chance, avec le premier venu. Et quand elles n'ont pas de chance, elles vont dans des bordels à soldats. Ce qu'on appelle des bordels à soldats. Et donc, ils veulent quoi, ces gens-là, qui en brigade, ils veulent ramener des filles. Il y a le fils d'une dame qu'on prend en charge à Nice, un peu comme Dunia Bouzard, qui nous disait, qui lui disait par message, ouais, mais j'ai besoin d'une femme. Il y a des besoins, ça reste un être humain, même s'il va là-bas, c'est pas devenu un monstre. Même s'il fait des trucs horribles, peut-être, sûrement. Il a des besoins physiologiques, peut-être, et il a besoin d'une femme. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour les garder sur place, eh ben, ils font venir des femmes.
Vous avez dit que le film n'était pas complètement représentatif, parce qu'en effet, on avait affaire à des convertis, vous avez dit 14% seulement, ce qui veut dire que les autres étaient déjà dans l'islam. Et ils se sont radicalisés au sens réel du terme. Ça veut dire qu'ils appartenaient à une population qui, ici, est issue de nos anciennes colonies, de toute une histoire postcoloniale, etc. Est-ce que on peut imaginer déradicaliser des gens et empêcher un phénomène comme ça sans s'attaquer aux racines sociales du problème, le racisme, la ségrégation, les ghettos, l'absence de perspective, etc. Croire que c'est juste une histoire de religion alors que c'est d'abord l'histoire de trouver un sens à une vie merdique, quand on est en plus à Beaumont où la mairie répond comme elle le fait à la mort d'un jeune homme et un comportement raciste des gendarmes, et avec des interventions dans les quartiers populaires. Et ça, c'est pas qu'à Beaumont, bien sûr, c'est dans plein de villes. Donc si on ne s'attaque pas à ça, on est dans l'hypocrisie pure. Le gouvernement français, il essaie d'éviter d'autres attentats avant les élections, et puis le prochain fera la même chose. Mais fondamentalement, l'idée, c'est de maintenir la domination de cette population. Domination dans la pauvreté, pour les emplois pourris, etc.
J'ai envie d'aller même plus loin. Que ce soit, si concerne les convertis, que ce soit dans un milieu social aisé, ou que ce soit dans un... parce qu'il y en a aussi, ou que ce soit dans un milieu social précaire, la réelle question, c'est... Et comme Rachid, encore une fois, Rachid Benzine le dit, un islamologue, qu'est-ce qu'on veut donner à notre jeunesse? 2% de plus de croissance, avec un réchauffement climatique de moins de 2 degrés, ou est-ce qu'on veut leur donner une réelle espérance? Et c'est ça, elle est là, la question. Hein. Parce que Daesh, c'est pas seulement un mouvement réactionnaire, c'est un mouvement qui se veut révolutionnaire. C'est donc, du coup, donner un nouveau départ à certaines personnes, et dans une nouvelle société. Et ça fait rêver. Et je suis désolé, et comme je disais tout à l'heure aussi, auprès des collégiens, c'est la première fois que, anthropologiquement, les jeunes vont moins bien vivre que leurs parents.
Voilà, je vais arrêter le chrono. Ah, merci Saphir. Deux petites secondes juste pour clôturer, on va vous libérer rapidement. Donc on est dans le cadre d'une quinzaine citoyenne avec du débat ouvert, avec un débat compliqué, avec des prises de position qui sont partagées, pas forcément partagées. Le pari de la MJC, c'était justement, et du collectif, d'ouvrir la discussion au plus large sans forcément fermer
et d'être dans un débat forcément consensuel. Je vais laisser la présidente clôturer la soirée, vous remercier encore et remercier nos amis du Palace, merci à tous les deux, merci beaucoup.
Je vous remercie pour ce soir à tous. Juste un dernier mot, en effet, la jeunesse est en quête de sens et on se pose des questions quand on est jeune et encore du merci quand on est plus vieux. Ceci dit, voilà, je pense qu'un espace laïque, je reviens sur la question de laïcité à laquelle je suis très attachée, permet quand même de développer la liberté de conscience, l'esprit critique, et que c'est grâce à celle-ci que justement on peut aller chercher du sens, des réponses à nos questions, sans forcément avoir une foi religieuse. On peut aussi trouver la foi en humain et l'humanité. Donc voilà, j'aurais voulu finir avec ça, et je tiens à préciser que la MJC est un espace laïque, où nos jeunes qui sont en quête de sens et se posent énormément de questions peuvent venir y trouver des réponses.
Et ta mère ?
Quoi ?
Tu penses à ta mère ? Tu pars en Syrie, ta mère à mère ? Tu participes à un attentat ? Tu tues des gens, ta mère à mère ? Tu sais ça ? Tu te rends compte que ta mère souffre ?
Liberté, égalité, fraternité.
Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est toi qui vois, c'est toi qui regarde, c'est toi qui pense, c'est toi qui agis, c'est toi qui... D'accord, ça se discute.
Tous les jours à 10h et 15h sur Alternative FM.
Liberté, égalité, fraternité.
Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, mon frère ?